Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Nous allons beaucoup parler de l'islam dans ce magazine, l'islam qui fait peur comme au Nigeria, l'islam qui veut dialoguer à Vienne, l'islam qui interpelle la société française. Nous parlerons aussi des difficultés des marins et des pêcheurs, l'Église s'y intéresse de près et elle interpelle ses aumôniers. Et puis nous parlerons bien sûr du consistoire qui va monopoliser l'actualité en cette fin de semaine au Vatican. 6 nouveaux cardinaux et pas un seul européen, c'est la première fois depuis 1924 qu'il n'y a pas d'Italien, vous entendrez la simplicité et la bonne humeur de l'archevêque d'Abuja. L'Église catholique comptera samedi 6 nouveaux cardinaux. Au cours d'un consistoire ordinaire public dans la basilique Saint-Pierre, Benoît XVI remettra la barrette et l'anneau, ainsi que le titre ou la diaconie, à 6 prélats non européens, dont 2 de rite oriental. Certains provenant de zones de conflit et connus pour leur courage et leurs paroles fortes, comme le patriarche maronite du Liban, Béchara Boutros-Rai, l'archevêque de Bogota, en Colombie, Mgr Ruben Salazar Gomez, l'archevêque de Manille, aux Philippines, Luis Antonio Tagle, et l'archevêque d'Abuja au Nigeria, John Onayekan. À la surprise générale, ce consistoire a été annoncé pendant le dernier synode sur la nouvelle évangélisation, 8 mois à peine après un précédent consistoire. Un geste pour l'universalité de l'Église, avait expliqué le pape, montrant qu'elle est l'Église de tous les peuples, qu'elle parle toutes les langues, qu'elle n'est pas l'Église d'un continent. Parmi les nouveaux cardinaux figurent également James Michael Harvey, préfet émérite de la maison pontificale et tout juste nommé par Benoît XVI, archiprêtre de la basilique Saint-Paul hors les murs, et Basilio Climis Totunkal, l'archevêque majeur des Siro-Malankar en Inde, c'est le plus jeune, il est âgé de 53 ans. Dimanche, solennité du Christ, roi de l'univers, le pape concélébrera la messe avec les nouveaux cardinaux toujours dans la basilique Saint-Pierre. Le collège des cardinaux compte actuellement 114 électeurs. Ils seront 120 à partir de samedi. C'est le nombre maximum d'électeurs selon une tradition instituée par Paul VI. Il s'agit du 5e consistoire de Benoît XVI après ceux des 24 mars 2006, 24 novembre 2007, 20 novembre 2010 et 18 février 2012. Avec ce nouveau consistoire, Benoît XVI aura créé 90 cardinaux. La nouvelle répartition en cas de conclave est la suivante. 62 Européens, 14 Nord-Américains, 21 Sud-Américains, 11 Africains et 11 Asiatiques. Jeudi soir, Xavier Sartre a rencontré un des 6 nouveaux cardinaux, John Onayekan, venu d'un pays, le Nigeria, actuellement déstabilisé par les attaques antichrétiennes de la secte islamiste Boko Haram. Dans cette situation difficile, il s'efforce de jouer un rôle modérateur, d'appeler au calme. Mgr Onayekan est connu pour son courage, mais aussi pour sa simplicité et son humilité. On l'écoute.
Ouais, j'ai reçu une lettre signée par le pape même, quand il m'a nommé cardinal. Dans cette lettre, il a expliqué. Il disait, premièrement, c'est pour m'honorer, pour je ne sais pas quoi. Second, pour m'inviter parmi les collaborateurs plus proches. Je devine que le premier parti d'honneur est aussi lié à mon apostolat comme archevêque d'Abuja pour notre témoignage chrétien dans les circonstances dont nous nous trouvons maintenant.
Est-ce que vous considérez que votre nouvelle charge de cardinal est en quelque sorte une reconnaissance de l'Église africaine et évidemment tout spécialement de l'Église nigériane ?
Oui, mais aussi, je dirais, à bon titre, parce que l'Église africaine est certainement une Église qui est adulte. Nous qui nous sommes des évêques africains, nous avons fait les mêmes études comme les autres évêques dans tout le monde. Même quand nos diocèses sont des diocèses jeunes, mon diocèse est seulement 20 ans, mais ce qui compte, c'est que nous devons être évêques aujourd'hui pour les défis qui affrontent l'Église de partout.
Les cardinaux sont censés aider le pape dans son ministère, comme vous l'avez rappelé. Qu'est-ce que vous, en tant que futur cardinal, vous avez envie de donner comme conseil au pape?
Non, je crois que le cardinal donnera le conseil quand le pape le demande. Or, le pape ne m'a pas encore demandé rien. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je... Or, je pourrais dire seulement que je ne crois pas que beaucoup changera dans l'archevêque John Onayekan. Je resterai toujours le même Onayekan. Et je continue avec les idées que j'ai accueillies pendant 30 ans d'épiscopat. Ce n'est pas à ce moment-ci que je devais maintenant aller à faire des études pour devenir bon cardinal. Non. Juste archevêque d'Abuja. Et je crois que c'est ça que le pape a regardé. Ce que je faisais, que je disais comme archevêque pour ma petite diocèse, maintenant il y a la possibilité que toutes ces idées arrivent au niveau de l'Église universelle. Et ça, c'est une vraie grande responsabilité.
John Onayekan, qui sera créé cardinal par Benoît XVI ce samedi 24 novembre. Et au Nigeria, justement, une église et des magasins tenus par des chrétiens ont été incendiés jeudi au cours d'une émeute déclenchée par des musulmans à cause d'une erreur de prononciation de la part d'un tailleur chrétien, erreur prise pour un blasphème. Premier producteur de pétrole du continent, le Nigeria est divisé entre le nord, majoritairement musulman, et le sud, à dominante chrétienne. Le Nigeria, où les tensions ethniques et interreligieuses sont fréquentes et violentes. Depuis 2009, le groupe islamiste Boko Haram a tué des centaines de personnes. Il vise à imposer la création d'un État islamique dans le nord du pays. Et à la veille du consistoire, au cours duquel le patriarche maronite sera lui aussi élevé à la pourpre, le président libanais Michel Sleiman a été reçu en audience par le pape ce vendredi matin. Le chef de l'État est lui-même chrétien maronite. Il a remercié Benoît XVI pour sa visite en septembre et pour avoir inclus Mgr Béchar Araï parmi les nouveaux cardinaux. Lors de sa visite au Liban, le pape avait lancé des appels à la coexistence pacifique entre l'islam et le christianisme, invitant les chrétiens à ne pas quitter la région. Selon la L'agence Vatican Fides, un responsable du Hezbollah, a fait lui aussi le déplacement jusqu'à Rome pour ce consistoire. Et c'est lundi prochain, le 26 novembre, que sera inauguré à Vienne un centre international pour le dialogue interreligieux et interculturel, une initiative du roi d'Arabie Saoudite à laquelle se sont associés en qualité d'État fondateur l'Autriche et l'Espagne. Dans une note publiée ce vendredi, le Vatican explique les motifs qui l'ont poussé à y adhérer en qualité d'observateur fondateur et à envoyer une délégation de haut niveau à la cérémonie d'inauguration. Thomas Chabol.
Par la voix du directeur du bureau de presse, le Saint-Siège fait valoir que cette nouvelle institution a pour but de favoriser le dialogue entre les religions et les cultures, une exigence fondamentale pour l'humanité d'aujourd'hui. Le roi d'Arabie Saoudite en avait du reste parlé au pape dès 2007 lors d'une rencontre au Vatican. D'autre part, le nouveau centre n'est pas une institution saoudienne, mais une organisation internationale indépendante, reconnue par les Nations Unies, fondée par l'Arabie et par deux pays d'ancienne tradition chrétienne, l'Autriche et l'Espagne. Le Saint-Siège estime donc qu'il s'agit d'une opportunité, d'un espèce de dialogue dont il est juste de tirer profit pour faire fructifier encore plus son expérience et son autorité dans ce domaine et pour exprimer ses propres attentes. En sa qualité d'observateur fondateur, le Saint-Siège ne manquera pas d'exprimer ses préoccupations quant au respect authentique des droits fondamentaux des chrétiens qui vivent dans des pays à majorité musulmane et de plaider en faveur de la promotion authentique de la liberté religieuse sous ses différentes expressions. Le nouveau centre de Vienne offrira un espace adéquat afin que de telles requêtes puissent être présenter et écouter, et pour trouver les solutions opportunes aux problèmes. Des occasions de ce genre existent déjà, mais la diversité et le pluralisme du monde actuel exigent que l'on multiplie les possibilités de promouvoir le point de vue et le rôle de l'Église catholique.
L'islam bouscule aussi la société française. En visite ad limina à Rome, les évêques français en ont parlé. Ce vendredi, le troisième et dernier groupe d'évêques a entamé sa visite, qui s'achèvera le 3 décembre. Parmi les dossiers sensibles qui interpellent l'Église de France, il y a bien sûr les projets de loi sur le mariage, l'élevage. Il y a les questions de bioéthique, le malaise social provoqué par la crise, mais il y a aussi les rapports que l'État entretient avec les religions et le paysage confessionnel. Alors nous allons en parler avec l'archevêque de Strasbourg qui faisait partie du deuxième groupe. Dans un pays très attaché à la laïcité, l'expérience de l'Alsace-Moselle est en effet singulière. Les trois départements sont toujours régis par le Concordat de 1802 et les trois cultes reconnus, à savoir le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme, ont une existence officielle et les prêtres, pasteurs et rabbins sont salariés par l'État. Les pouvoirs publics y sont donc plus habitués à parler avec les représentants religieux et ces derniers à parler entre eux. En Alsace, l'arrivée des musulmans, mais aussi d'orthodoxes ou de bouddhistes, amène l'Église catholique à revoir sa manière de dialoguer avec des interlocuteurs plus ou moins nouveaux. Xavier Sartre a rencontré Mgr Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg. Cet entretien porte sur le dialogue avec les musulmans qui eux-mêmes doivent s'adapter à un environnement différent de leur pays d'origine.
Ceux qui viennent des pays musulmans, ils sont à la fois musulmans, mais ils viennent de pays musulmans où il n'y a pas de séparation du culte et de l'État. C'est ainsi que, par exemple, la présence des Turcs est soutenue par l'État turc qui va financer des mosquées, qui va financer une école de théologie coranique, et ainsi de suite. Donc, il y a déjà un déplacement considérable, une différence majeure. Ceux qui viennent de l'islam s'appuient généralement sur un pays où ils sont, où ils ont eu l'expérience là, où ils sont non seulement majoritaires, mais presque exclusivement majoritaires. Et cela pose un problème d'expérience, puisque dans les pays musulmans, celui qui n'est pas musulman connaît la dimitude, c'est-à-dire une situation de citoyen de seconde zone, ce qui est impensable chez nous. Donc un musulman va bénéficier d'une reconnaissance d'un statut social, politique, de vrai citoyen, s'il en fait la demande, et s'il joue le jeu de la citoyenneté, ce qui est en majeure partie des cas le cas, mais il y a une différence par rapport à la situation des juifs ou des chrétiens qui sont dans des pays musulmans. Et c'est à mon avis, dans les années à venir, un des thèmes de réflexion qu'il faudra aborder.
Vous en parlez de temps en temps avec les musulmans
pas. Alors, dans la mesure où ils sont sur le sol français, on n'aborde pas la situation des chrétiens qui sont chez eux. Mais avec quelques-uns de mes interlocuteurs musulmans, quand la confiance arrive, il m'est arrivé de l'évoquer cela. Mais je m'attends à ce que dans les accords internationaux futurs, il faudra qu'on ne se voile pas la face et qu'on ose aborder des questions et de citoyenneté comme de dialogue interreligieux.
Est-ce que le fait d'être sous le régime concordataire facilite justement ce dialogue interreligieux ?
Alors oui, alors ça va faciliter entre les trois cultes reconnus et ça va peut-être être une tête de pont pour un meilleur dialogue avec les autres religions nouvellement arrivées sur le sol français ou alsacien. Dans les représentations publiques, on est toujours associé, donc l'archevêque que je suis, le président des églises protestantes d'Alsace et Moselle, et puis le grand rabbin de Strasbourg. Mais je dis, ça ne va pas sans contradiction, parce que précisément le catholique alsacien est très attaché à son identité, et donc ce n'est pas sans tension.
Des tensions sur quelle chose ?
Ah ben l'incompréhension ou le sentiment qu'ils sont un peu dessaisis de leur identité. La tension vient du fait que, avec les évolutions du monde moderne, beaucoup se disent on n'est plus tout à fait chez nous. D'où la crainte des minarets, par exemple. D'où dans les colorations politiques des réactions, une volonté de vote plus identitaire. Mais donc il faut aider les gens à se connaître, à s'apprécier et à construire un vivre ensemble qui soit digne. Et il faut à la fois que, comme chrétiens, comme catholiques, nous soyons engagés loyalement, de façon responsable et pas naïve, dans le dialogue interreligieux. Et il fallait en même temps permettre de rappeler l'identité forte que doit être une communauté catholique.
Le fléau mots de la piraterie maritime et les problèmes du secteur de la pêche étaient au cœur d'un discours de Benoît XVI ce vendredi matin. Le pape s'est adressé au 23e congrès de l'apostolat de la mer qui s'est réuni pendant 5 jours au Vatican sous les auspices du Conseil pontifical pour les migrants et les personnes en déplacement. Le pape a invité les aumôniers à être proches du monde de la mer qui subit sévèrement les effets pervers de la globalisation et des changements climatiques. Bernard de Cotigny.
Il faut continuer d'évangéliser le monde de la mer. Ce mandat, Benoît XVI l'a renouvelé devant quelques 400 délégués venus de 70 pays. Depuis les débuts du christianisme, la navigation maritime a contribué efficacement à véhiculer l'œuvre d'évangélisation. Aujourd'hui encore, l'Église sillonne les mers pour porter l'Évangile à toutes les nations. Mais le pape n'ignore pas les privations que connaissent les marins et les pêcheurs. Leur vulnérabilité exige aussi la solidarité et la sollicitude maternelle de l'Église. Benoît XVI a énoncé les problèmes concrets auxquels ce monde est confronté. Les injustices, les longs mois de navigation, les restrictions parfois imposées aux équipages, la menace que représente la recrudescence de la piraterie, l'impact sur l'industrie maritime de la pêche illégale et de l'exploitation excessive des ressources. L'Église doit être proche de ceux qui demandent que leur soient assurées des conditions de travail dignes et sûres, que l'importance des rapports familiaux soit prise en compte et que l'environnement soit protégé. La charité de l'Église doit se manifester à bord des cargos, dans les situations dangereuses. Benoît XVI a insisté également sur l'importance de la présence des aumôniers dans les ports. Il les a encouragés à se montrer accueillants avec les équipages, à répondre sans hésiter aux marins qui les attendent à bord pour qu'ils comblent les nostalgies de leur âme, à les aider à rencontrer Jésus et à découvrir l'Évangile.
Ce 23e congrès mondial avait pour thème la nouvelle évangélisation du monde maritime en écho du récent synode pour la nouvelle évangélisation qui s'est tenu en octobre dernier. Les participants ont échangé leurs expériences, abordé les problématiques concrètes inhérentes à ce monde si particulier et à cet apostolat souvent méconnu qui a pour but de promouvoir le développement spirituel, moral et social des marins et de révéler le Christ à ceux qui naviguent sur les bateaux et qui travaillent en eau profonde. Parmi les sujets dossiers traités, les conditions de vie et de travail des travailleurs maritimes, la piraterie, les trafics d'êtres humains, l'esclavage, la pêche illégale et les conséquences qu'elle peut avoir sur l'écologie. Manuela Figi a rencontré à cette occasion le père Dirk de Marthe, aumônier national de la pêche en Belgique. Il nous parle d'une mission qu'il effectue depuis près de 30 ans, des objectifs de cette mission et de ce qu'elle lui apporte.
En Belgique, je suis le seul prêtre qui a une responsabilité pour tous les dossiers sociaux en ce qui concerne la vie des pêcheurs. Et ma situation est très spécifique parce qu'à côté d'être aumônier, je suis aussi un fonctionnaire au ministère de l'Agriculture et Pêche. Et là, j'ai la possibilité d'entrer dans toutes les réunions où ils arrangent toutes sortes de problèmes qui arrivent aux pêcheurs, aux embarcadeurs aussi. Alors c'est à moi d'être là et de donner une voix aux pêcheurs quand il s'agit de leur propre intérêt et surtout pour leur action, leur santé dans la famille aussi. Les pêcheurs, ils sont en mer, mais qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui restent à la maison? Il y a 30 ans, j'ai commencé comme directeur de l'école de pêche de mer. C'est là que j'ai rencontré les femmes qui étaient seules avec les enfants. C'est là que j'ai su donc tous les problèmes qu'ils ont. Quand le père est en mer, elle a tout à faire, même l'éducation pour les enfants. Et aussi, l'homme, quand il arrive quelque chose dans la famille, comment nous allons le dire à l'homme qui est en mer? Parce que c'est très intéressant de lier le bateau avec la famille tout le temps. Donc, c'était mes premières expériences avaient à faire avec l'éducation des enfants. Après ça, je suis devenu, en 1992, je suis venu donc chapelain. Et alors, tout ce que j'ai constaté, tout ce que j'ai entendu, je l'ai toujours transféré, je l'ai traduit dans des projets concrets. Par exemple, j'ai toujours entendu des difficultés en ce qui concerne la sécurité. Alors, j'ai commencé construire des groupes où nous avons étudié ce qui manquait. Alors donc, ça s'est devenu déjà un livre de 280 pages et chaque page donne un problème qu'on peut avoir dans la sécurité et donc c'est devenu le Bible de sécurité à bord. C'est seulement pour dire qu'on est toujours, même aujourd'hui, en train de faire de nouveaux projets.
Qu'est-ce que vous apporte cette mission auprès des pêcheurs?
Beaucoup d'amitié. Vraiment beaucoup d'amitié. Et cela m'a donné la possibilité d'évangéliser aussi sur des points moraux. Ils savaient que j'étais sincère, que je suis un homme qui toujours essayé de poser l'évangile au milieu des choses dans la vie. Par exemple, quand ils sont confrontés avec l'écologie aujourd'hui, j'ai donc la chance de dire ce qu'il doit faire en mer pour qu'il y ait assez de poissons pour les futures générations. Donc, ils ne jettent pas d'or quand je dis ça. Il m'écoute.
Et c'est sur cet entretien avec l'aumônier national de la pêche en Belgique que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook. Bonne fin de semaine à tous.